les dominatrices des maîtres. Une profonde et puissante voix d'alto, comme on les entend parfois au théâtre, écarte soudain pour nous le rideau devant les possibilités en quoi nous ne croyons pas généralement. Soudain, nous sommes convaincus qu'il peut exister quelque part dans le monde des femmes aux âmes sublimes, héroïques et royales, aptes et prêtes aux ripostes grandioses, aux décisions et aux sacrifices. Capable de dominer les hommes et prête à le faire, parce que ce qu'il y a de meilleur dans l'homme semble devenu en elle, par-delà la différence des sexes, un idéal vivant. Il est vrai que, d'après les intentions du théâtre, ces voix ne doivent précisément pas donner l'idée de cette catégorie de femmes. Généralement, elles doivent représenter l'amant masculin idéal, par exemple un Roméo. Mais à juger d'après les expériences que j'ai faites, le théâtre et le musicien qui attendent de pareilles voix, pareils effets se trompent régulièrement. On ne croit pas à un tel amant. Ces voix d'alto contiennent toujours une nuance de quelque chose de maternel et de domestique. Et d'autant plus, justement, qu'il y a de l'amour dans leur timbre. De la chasteté féminine. Il y a quelque chose de stupéfiant et de monstrueux dans l'éducation des femmes de la haute société. Oui, peut-être n'y a-t-il même rien de plus paradoxal. Tout le monde est d'accord pour les élever dans une ignorance extrême des choses de l'amour, leur inculquer une pudeur profonde et leur mettre dans l'âme la patience et la crainte devant une simple allusion à ces sujets. C'est tout l'honneur de la femme qui est mis en jeu. Autrement, que ne leur pardonnerait-on pas? Mais en cela, elles doivent demeurer ignorantes jusqu'au fond de l'âme. Elles ne doivent avoir ni regard, ni oreille, ni parole, ni pensée pour ce qu'elles doivent considérer comme le mal. Rien que de savoir est déjà un mal. Et maintenant, être lancée comme par un horrible coup de foudre dans la réalité et la connaissance par le mariage. Et encore, l'initiateur est-il celui qu'elles doivent le plus aimer et vénérer? Surprendre l'amour et la honte en contradiction? Devoir sentir en un seul objet le ravissement, le sacrifice, le devoir, la pitié et l'effroi à cause du voisinage inattendu de Dieu et de la bête? Et que sais-je encore? On a créé là un enchevêtrement de l'âme qui chercherait son égal. Même la curiosité apitoyée du connaisseur d'âme le plus sage ne suffit pas à deviner comment telle ou telle femme sait s'accommoder de cette solution de l'énigme, de cette énigme de solution. Quels épouvantables et multiples soupçons s'éveilleront forcément dans une pauvre âme sortie de ses gonds? Et comment, enfin, la dernière philosophie et l'ultime scepticisme de la femme jetteront leur encre en ce point? Après, c'est le même profond silence qu'avant, et souvent un silence devant soi-même. Les jeunes femmes tentent avec effort à paraître superficielles et étourdies. Les plus fines d'entre elles simulent une sorte d'effronterie. Les femmes considèrent volontiers leurs maris comme un point d'interrogation de leur honneur, et leurs enfants comme une apologie et une pénitence. Elles ont besoin des enfants et les souhaitent dans un tout autre sens que ne les souhaite un homme. En un mot, on ne peut jamais être assez indulgent à l'égard des femmes. Les mères. Les animaux pensent autrement sur la femme que les hommes. Pour eux, la femelle est la créature productive. Chez eux, il n'y a pas d'amour paternel, mais quelque chose comme de l'affection pour les enfants d'une maîtresse et l'habitude qu'on en prend. Pour les femelles, les enfants satisfont un désir de dominer. Ils sont pour elles une propriété, une occupation, quelque chose qu'elles comprennent entièrement et avec quoi on peut s'entretenir. Tout cela réuni est de l'amour maternel. Il est comparable à l'amour de l'artiste pour son œuvre. La grossesse a rendu les femmes plus douces, plus patientes, plus craintives, plus soumises. De même, la grossesse intellectuelle engendre le caractère des esprits contemplatifs, qui est parent du caractère féminin. Ceux-ci sont les mères masculines. Chez les animaux, le sexe masculin est considéré comme le beau sexe. Cruauté sacrée. Un homme qui tenait dans ses mains un enfant nouveau-né s'approcha d'un saint. « Que dois-je faire de l'enfant ? » demanda-t-il. « Il est misérable, malvenu et n'a pas assez de vie pour mourir. »« Tue-le ! » s'écria le saint d'une voix terrible. « Tue-le et garde-le pendant 3 jours et 3 nuits entre tes bras afin de te créer une mémoire. »« De la sorte, jamais plus tu n'engendreras d'enfant quand pour toi le moment d'engendrer ne sera pas venu. » Lorsque l'homme eut entendu cela, il s'en alla désappointé. Il y en eut beaucoup qui blâmèrent le saint parce qu'il avait conseillé une cruauté, car il avait conseillé de tuer l'enfant. « Mais n'est-il pas plus cruel de le laisser vivre ?» répondit le saint. Sans succès. Elles n'ont jamais de succès, ces pauvres femmes qui, en présence de celui qu'elles aiment, deviennent inquiètes et incertaines et parlent trop. Car c'est une certaine tendresse discrète et flegmatique qui séduit le plus sûrement les hommes. Le troisième sexe. Un homme petit est un paradoxe, mais du moins est-ce un homme. Pourtant, une femme petite me semble être d'un autre sexe quand on la compare aux femmes de haute taille. C'est ainsi que parlait un vieux maître à danser. « Une femme petite n'est jamais belle », disait le vieil Aristote.